Hébreux chapitre 13, les versets 1 à 6. Donc je vous encourage, si vous avez vos Bibles, de les ouvrir là. Pour rappel, l'auteur est toujours dans cette perspective ici de la persévérance dans la foi. On a passé des chapitres là-dessus en regardant des exemples, en regardant des exhortations, des avertissements, pour que les chrétiens restent fidèles à Dieu malgré les épreuves de la foi, malgré les tentations qui sont présentes aussi. Et son but, c'est d'encourager tout chrétien, ceux qui lisent la lettre à l'époque, mais nous aussi encore aujourd'hui, à vivre des vies qui sont sanctifiées et à faire en sorte qu'on tienne jusqu'au bout dans la foi en Christ. Et donc nous lisons dans cette optique les versets 1 à 6 de Hébreux chapitre 13. Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité. Il en est qui, en exerçant, ont eu à leur insu, ont à leur insu logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi vous êtes dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Dieu jugera ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle et à l'adultère. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit lui-même, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur. Que peut me faire un être humain? Nous avons dans ce passage ici des exhortations pratiques pour la vie chrétienne, et ceci ressemble à ce qu'on voit dans beaucoup d'épîtres différents. Dans le Nouveau Testament, il y a de l'enseignement, des explications des Écritures, des rappels à l'ordre pour des problèmes dans l'Église, mais on termine presque toujours dans les lettres du Nouveau Testament par une série d'encouragements et d'exhortations morales et pratiques pour la vie chrétienne. Et je crois que nous avons cela ici aussi, toute une série d'encouragements pratiques, mais avec cette perspective, nous voulons rester fidèles. Mais nous remarquons que la plupart de ces exhortations que nous voyons ici, ce n'est pas juste la vie individuelle, notre vie personnelle, mais c'est plutôt la vie communautaire dans l'Église. Et une des choses dont nous pouvons nous rappeler dès le début, c'est que le chemin de la foi, et ce chemin de foi où il faut persévérer jusqu'au bout pour voir Christ à la résurrection, ce chemin ne se fait pas seul. Et c'est pour ça qu'après avoir vu tous ces avertissements, tous ces exemples, maintenant, l'application pratique, ce sera dans ses relations les uns avec les autres. Et Dieu a donné l'Église, il a donné l'assemblée de Christ pour que nous nous encouragions, que nous nous aidions les uns les autres à continuer dans la foi et que nous nous aimions les uns les autres. Et c'est justement cette première chose qui dit au verset 1, que l'amour fraternel demeure. Il se peut que la foi des chrétiens qui ont reçu cette épître était en train de faiblir à cause justement de toutes ces pressions externes et aussi des doutes qu'ils avaient. Et ceci pouvait entraîner aussi une défaillance, pas seulement dans la foi, mais une défaillance dans leur amour et dans leur affection mutuelle. Et si tel est le cas, ils devaient encore plus redoubler d'efforts pour s'aimer les uns les autres dans ces moments d'épreuve. Et leur amour doit demeurer. N'est-ce pas? Il dit que votre amour, que l'amour fraternel demeure. Il dit pas que l'amour fraternel disparaisse. Et ça, c'est la tendance naturelle, n'est-ce pas? Lorsque tout va bien, c'est facile de s'aimer les uns les autres, de prendre soin les uns des autres. Mais lorsqu'on passe par des épreuves, que ce soit des épreuves de foi ou d'autres, lorsque nous sommes face aux persécutions, et lorsque nous sommes face aux tentations et aux difficultés, c'est beaucoup plus difficile de faire preuve d'amour. Lorsqu'on est sous pression, l'amour a tendance à défaillir. Mais ici, donc, nous avons cet encouragement. Tenez bon à l'amour qui est déjà présent, cet amour fraternel. Et dans cette perspective de persévérer dans la foi, nous rappelle que nous avons besoin de l'amour mutuel pour tenir bon jusqu'au bout. Ah, une foi isolée, séparé des autres, qui est vécu sans l'amour des autres, n'est pas vraiment une foi qui vient de Dieu ou une foi qui peut tenir jusqu'au bout. Nous savons, on le dit assez souvent quand on enseigne, mais ça vaut la peine de le rappeler, que quand on parle de l'amour biblique, c'est pas juste l'idée d'un sentiment. même si le sentiment en fait partie très souvent. Dans le sens biblique, l'amour, c'est pas juste dire « Ah bon, cette personne, je t'apprécie bien. Cette autre personne, personnalité que j'apprécie pas trop, ah, je l'aime pas. » C'est pas juste « J'ai des affinités pour une personne ou pour une autre. » L'amour, c'est des actions bienveillantes et concrètes en faveur des autres. C'est chercher activement le bien. Vous savez, parfois, surtout quand j'étais plus jeune, je n'appréciais pas mon frère. Mais c'était mon frère, et par amour fraternel, je voulais son bien. Parfois, il fallait creuser un peu pour le voir. Mais l'amour, l'amour concret et l'amour biblique, c'est vraiment cette idée de faire le bien et de chercher le bien les uns des autres. Et parfois, je parle avec des gens et ils ont de la peine avec ces passages qui disent « il faut s'aimer les uns les autres » parce qu'ils disent « bon, moi, il y a des personnes que je n'apprécie pas beaucoup. » Ou peut-être « ça va, on arrive à s'entendre, mais l'aimer, je ne suis pas plein d'amour et d'affection. » Et la réponse pour eux, c'est on peut aimer ces gens en Christ en cherchant leur bien, en faisant des actes bienveillants pour eux et en désirant ce qui est bien pour eux. Et ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour tout à fait réel et qui plaît à Dieu. Et par l'esprit et par le travail de Dieu en nous, peut-être avec le temps, l'affection émotionnelle, sentimentale va grandir. Mais ici, quand on dit « aimez-vous les uns les autres », c'est pas juste « ah, je suis tellement content de voir Randy », même si c'est toujours le cas les dimanches. Mais c'est l'idée « qu'est-ce que je vais faire pour mon frère Randy ou pour les autres ?» L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 9, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Et je crois que là aussi, il y a cette perspective de difficulté qui est présente. Mais malgré les difficultés interpersonnelles ou dans l'Église, ayez cet amour qui couvre une multitude de péchés. Bon, quand on regarde les versets 2 et suivants, nous allons voir deux exemples concrets, deux expressions concrètes de l'amour fraternel. Au verset 2, nous lisons « N'oubliez pas l'hospitalité. Il en est qui, en l'exerçant, ont à leur insu logé des anges. » Bon, papa vous a déjà expliqué pour le repas du Seigneur, donc le mot « hospitalité » ici qui vient d'une racine qui veut dire l'amour pour les étrangers, le bien pour les étrangers. Et l'hospitalité était une valeur quasi universelle dans l'Antiquité méditerranéenne. Les cultures là-bas, dans ces endroits, attachaient une valeur extrêmement importante à inviter les gens dans sa maison pour prendre soin d'eux, pour qu'ils passent la nuit, pour qu'ils partagent un repas et pour prendre soin d'eux. Et l'hospitalité impliquait aussi l'accueil des étrangers. Et si c'était une valeur quasi universelle, c'était une valeur encore plus grande pour les Juifs et pour les chrétiens par la suite. Dans la Torah, la loi de Dieu ordonne aux Juifs, aux Israélites, de pratiquer l'hospitalité plus de 24 fois. On dit pratiquer l'hospitalité, soyez accueillants envers les étrangers ou ceux qui sont dans le besoin. Et cette responsabilité demeure chez les chrétiens. Paul dit aux chrétiens dans Romains, chapitre 12, le verset 13, « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Et dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 2, nous lisons au sujet ici des dirigeants de l'Église, « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » Et si c'était une valeur universelle, c'était un commandement pour tout chrétien de suivre, d'être hospitalier, encore plus pour les dirigeants. On ne pouvait pas être dirigeant si on n'était pas hospitalier dans l'Église. Et c'est intéressant parce que pour le peuple juif de l'époque, il y avait des communautés qui étaient en train de se développer depuis un ou deux siècles, au moment où cette lettre est écrite, où on était en train de se détourner de ce mouvement d'hospitalité. Chez les pharisiens et chez certains groupes des Esséniens aussi, on était en train de dire, bon, pour plaire à Dieu, pour être pur, qu'est-ce qu'on fait? On va manger nos repas de manière isolée des autres. On va se séparer des étrangers pour plaire à Dieu. Et cela ne correspond pas à ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, ni à ce que Dieu demande de l'Église. Dieu veut que son peuple soit un peuple accueillant autour de la table et dans les maisons. Ici, dans quel sens faut-il appliquer ou comprendre l'exhortation à l'hospitalité? Je crois que c'est dans tous les sens du mot. Parce que nous venons de voir, on est dans cette réflexion au sujet de l'amour fraternel, hein, n'est-ce pas? De l'amour entre frères et sœurs dans l'Église. Mais tout de suite après, il va parler de ceux qui ont accueilli sans le savoir des anges. Donc on parle aussi des étrangers. Et donc, l'hospitalité chrétienne implique beaucoup de choses. C'est inviter les frères et sœurs à manger, sans attendre quelque chose en retour de leur part. C'est accueillir, pour les premiers chrétiens, c'était accueillir l'Église dans leur maison. La plupart des assemblées n'avaient pas une salle, comme nous avons pour nous. C'était dans les maisons des membres qu'on se réunissait. L'hospitalité, c'était aussi accueillir les chrétiens d'autres villes. Et quand vous lisez les épîtres, qu'est-ce qu'on voit souvent? Dans les lettres de Paul ou les lettres des autres, on va mentionner tel et tel amène la lettre, faites-lui bon accueil, ou je recommande telle personne. Et ce n'est pas anodin, c'est parce que quand un chrétien voyageait dans une nouvelle ville, il revenait avec des lettres des assemblées d'où il venait pour recevoir un accueil, pour avoir un endroit où dormir et où manger, et pour vivre pendant qu'il était dans cette ville. Et bien entendu aussi, l'hospitalité, c'était l'accueil des étrangers, ceux en dehors de la communauté aussi. Et je crois que dans ce passage, tout cela est en vue. C'est une vie, c'est une culture d'hospitalité qui doit exister dans l'Église, dans le contexte de l'amour fraternel et de l'accueil des étrangers. Il faut savoir que l'hospitalité était extrêmement importante pour les premiers chrétiens. Et c'était tellement pratiqué qu'il y a des gens qui sont devenus des abuseurs professionnels du système d'hospitalité. Parce qu'il y a des textes qui viennent de la fin du 1er siècle, donc quelques décennies après cela, qui disent « Bon, voici les règles pour l'hospitalité. D'accord? Si quelqu'un est missionnaire ou envoyé, il arrive chez vous, il ne peut pas rester plus que 2 ou 3 jours. Il faut le mettre dehors après. » Ça, c'était des chrétiens qui avaient trouvé ces règles, qui ne sont pas du tout dans le Nouveau Testament, parce que les gens savaient, les chrétiens font bon accueil, donc on va profiter au maximum, et des gens sentaient qu'il fallait inventer des règles ou créer des règles pour se protéger de cela. Sans m'exprimer sur la valeur de ces règles elles-mêmes, je crois que c'est important de voir que c'était connu que les chrétiens faisaient bon accueil, qu'ils étaient hospitaliers. Et en plus, donc, juste de ce commandement, hein, exercer l'hospitalité, l'auteur quand même donne un bon rappel, un encouragement pour l'hospitalité. Il y a des gens qui étaient accueillants, qui, sans le savoir, ont accueilli des anges. Et on a de nouveau donc, des questions, bon, de quoi est-ce qu'il parle ici? Est-ce qu'il est en train de dire, bon, quand on croise des gens dans la rue, qui sait? Peut-être c'est des anges. Bon, moi j'en sais rien, ils m'ont pas dit s'ils sont des anges ou non. Mais nous savons en tout cas qu'à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, cela s'est produit, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 18, Abraham, il est assis devant sa tente, il y a des voyageurs qui arrivent, et il va les inviter, les accueillir pour un repas, et sans savoir que ce sont des anges envoyés par Dieu. Le chapitre suivant, dans Genèse chapitre 19, Lot va accueillir 2 des anges pour entrer chez lui, pour dormir et pour être bien accueilli. Dans le livre des Juges, Gédéon va rencontrer un ange sans le savoir. Les parents de Samson donnent un repas à un ange, et le père de Samson n'est pas au courant qu'il s'agit d'un ange. Et nous voyons donc dans l'histoire d'Israël que des gens qui ont exercé l'hospitalité sans le savoir étaient en train d'accueillir les messagers de Dieu. Et nous ne savons pas quelle bénédiction et quel bien nous faisons lorsque nous faisons bon accueil, lorsque nous invitons nos frères et sœurs ou d'autres à manger chez nous, lorsque nous faisons un bon accueil pour ceux qui ont besoin de logement, lorsque nous mettons nos ressources à disposition de ceux qui sont dans le besoin. Nous ne savons pas ce que Dieu va nous donner en retour, mais nous savons que c'est ce que Dieu demande de nous, car nous avons reçu un bon accueil de la part de Dieu. Donc comment être plus hospitalier? Bon, nous pouvons inviter nos frères et sœurs à manger un repas, et c'est une très belle chose de faire cela. Nous nous voyons pour les études bibliques, nous nous voyons pour les cultes, on a des repas en commun après les cultes 2 fois par mois, et ce sont des bons moyens pour tisser des liens. Mais je crois que si nous ne partageons pas des repas ensemble, en dehors de ce cadre de culte ou d'études bibliques et tout, on aura de la peine à avoir un réel amour fraternel, si nous n'ouvrons pas nos maisons, nos tables aux autres. On peut exercer l'hospitalité en étant à disposition lorsque quelqu'un vient visiter l'assemblée. Quelqu'un vient pour participer au culte, on prend un moment pour parler avec cette personne, peut-être l'inviter prendre un café, être à son écoute, mais être disponible. Certaines personnes n'ont pas les moyens financiers pour pratiquer beaucoup d'hospitalité. Mais même dans ces circonstances, on peut le faire avec l'aide de l'Église ou se mettre à 2 ou 3 ou plusieurs pour exercer l'hospitalité. Nous connaissons des gens qui ont fait cela. Mais une des choses est certaine, les liens de fraternité et de l'amour dans l'Église dépendent de l'hospitalité. Comme Jésus passait du temps à table avec ceux qui étaient ses disciples et avec ceux avec qui il voulait tisser des liens, nous avons ce devoir aussi d'avoir une attitude d'accueil. Bon, il va continuer en verset 3, une autre expression de l'amour mutuel. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous êtes dans un corps. Quand j'étais aux États-Unis pour les études, j'ai passé 4 ans avec une assemblée dans la ville de Searcy, aux États-Unis, et un des prédicateurs qui était de l'église là-bas, il prêchait jamais devant tout le monde, il enseignait peu de classes bibliques parce qu'il avait un ministère d'évangélisation et de soutien auprès des personnes âgées et des prisonniers. Et donc, il a organisé en semaine toutes les visites, toutes les réunions des personnes âgées qui avaient de la peine à se déplacer de l'assemblée. Et aussi, il allait rendre visite aux gens en prison qui voulaient étudier la Bible, qui faisait des cours par correspondance, et il faisait ça tout le temps. Il a baptisé un très grand nombre de personnes, mais personne ne le voyait parce qu'il faisait ça, soit dans les maisons de retraite, soit dans les maisons des gens, soit dans les prisons. Mais c'était un travail important. Et là, donc, il y a un ministère aux prisonniers qui, je crois, est important encore aujourd'hui, de prêcher l'évangile, d'être disponible, de visiter ceux qui, à cause du mal qu'ils ont fait, sont en prison. Mais, de nouveau, quand on lit l'Épître aux Hébreux, il faut se souvenir que ce n'est pas juste les, entre guillemets, les méchants qui sont en prison, n'est-ce pas? Ils vivent dans un contexte de persécution et l'Église elle-même est touchée par cela. Au verset 34 d'Hébreux chapitre 11, donc ça fait quelques semaines, mais dans Hébreux 11, verset 34, nous lisons « En effet, vous avez été sensibles au sort des prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions supérieures qui demeurent. » Et là, le sort des prisonniers, c'est leurs frères et sœurs dans la foi qui ont été mis en prison à cause de l'Évangile. Et le soin des frères et sœurs de l'Assemblée qui sont en prison est une expression de l'amour. Cela me fait penser à ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 36, où il dit « J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Et quand les gens veulent savoir, bon, de quoi parle-t-il, il dit « Quand vous l'avez fait à l'un de mes petits, vous l'avez fait pour moi. » Et donc, il parle ici de la visite et du soin des prisonniers pour Christ. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Mettons-nous à la place des chrétiens persécutés. Un des frères ou une des sœurs de l'assemblée, l'État vient, l'arrête, la met en prison. Qu'est-ce qu'on va faire vis-à-vis de cette personne? Bon, si on veut se protéger, qu'est-ce qu'on fait? Aucun contact, n'est-ce pas? Ou peut-être on envoie une lettre anonyme de temps en temps, on prie pour toi, on pense à toi, okay. Tiens bon, c'est une copie de l'évangile de Jean, mais on ne va pas prendre le risque d'aller s'annoncer au garde de la prison pour dire « j'aimerais visiter ce chrétien ». Ah, pourquoi veux-tu visiter ce chrétien? Ben, je suis chrétien aussi. Vous voyez la difficulté qui est là. Et pourtant, c'est ce qui est demandé de ces chrétiens. Non seulement ça, il n'y a pas seulement un risque personnel ici en disant « occupez-vous, prenez soin des prisonniers ». Mais il y a un poids, un risque social qui est ici. Parce que si quelqu'un est en prison, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, cette personne le mérite. Okay. Qui aime aller passer leur week-end en prison? La plupart des gens, non. Les chrétiens ici, en disant « je vais être connu comme quelqu'un qui prend soin des prisonniers », sont en train de s'attirer le déshonneur sur eux-mêmes. Ils vont être vus par leurs contemporains comme des gens louches, comme des gens pas bien, déshonorables, parce qu'ils sont en train d'être solidaires avec les prisonniers, avec les ennemis de la société. Et donc, s'ils vont prendre soin des prisonniers, ils doivent d'abord accepter de courir des risques pour Christ et par amour fraternel. Mais deuxièmement, ils doivent décider de ne pas avoir honte de leurs frères et sœurs qui sont prisonniers. Voici ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 16. « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Quand il dit « Onésiphore et sa maison », donc ceux qui étaient dans sa famille qui le servait, ils ont dit « Bon, Paul est en prison, mais nous n'avons pas honte de Paul, même s'il est en prison. Nous allons l'aider, nous allons prendre soin de lui. » Et à l'époque, souvent, les prisonniers étaient maltraités, pas seulement en étant battus et d'autres choses, mais souvent, on ne leur donnait pas ce dont ils avaient besoin pour manger pour être vêtus, pour avoir de l'eau potable à boire. Et s'ils n'avaient pas d'amis ou de gens qui leur amenaient ces choses, ils tombaient malades, ils pouvaient mourir simplement de maltraitement. Et donc, ici, ça devient ultra concret, n'est-ce pas? Il y a des chrétiens qui sont en prison. Est-ce qu'on va se protéger? Est-ce qu'on va protéger sa réputation et les laisser souffrir et peut-être mourir? Ou est-ce qu'on va prendre un risque? Est-ce qu'on va donner de ses biens? Est-ce qu'on va s'attirer la honte pour les soutenir? Bon, il y a une conséquence s'ils ne le font pas. Non seulement les frères et sœurs peuvent mourir, mais ils peuvent laisser tomber leur foi. Ils peuvent perdre la course à cause du découragement. Mais si des frères et sœurs sont prêts à faire le pas pour les aider, bon, il y a des risques qui sont présents, mais ils vont tenir bon jusqu'au bout. Quelle est l'application pour nous, hein? Il n'y a pas des grands nombres des membres de l'Assemblée ici qui sont en prison, à ma connaissance. Okay. Mais comment est-ce qu'on peut vivre cela? Je crois qu'il faut avoir peut-être une ouverture à, si Dieu ouvre des portes, des possibilités d'être des serviteurs de ceux qui sont en prison, de prendre ces occasions qui sont là. Mais aussi, bon, on ne peut pas visiter les frères et sœurs en prison, mais nous avons des frères et sœurs qui sont limités à cause de leur santé, à cause de leur âge, dans ce qu'ils peuvent faire. Et de visiter ceux qui sont dans les maisons de retraite, qui ne sont pas des prisons, je tiens à souligner cela. Mais d'être là, de passer du temps avec eux, de rendre visite à ceux qui sont dans le besoin, ça c'est une responsabilité devant Christ que nous avons. Et peut-être une autre application tout aussi basique, mais c'est de ne pas avoir honte de nos frères et sœurs en Christ. Vous êtes ma fierté. Même si nous sommes une petite assemblée, même si on est parfois un peu bizarre, vous êtes ma fierté. Et je n'ai pas honte de vous. Et je n'ai pas honte qu'on sache que je suis votre frère en Christ. Et nous voulons avoir cette attitude. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un peu plus de 20 minutes qu'on prêche. La prochaine fois, si ça ne dérange pas, moi je peux continuer avec les avertissements qui sont là. Mais voilà l'exhortation pour tenir ferme, une affection et un amour mutuel qui est présent. Pour nous, ces trois encouragements, de nous voir et de chercher le bien les uns des autres. De commencer, même si c'est par une petite manière, de faire plus, de pratiquer plus d'hospitalité pour que nous ayons ces liens d'affection. Et de ne pas avoir honte de nos frères et sœurs, mais d'être ceux qui visitent, qui se rendent disponibles pour ceux qui sont dans le besoin. Et cela plaît à Dieu, et cela nous aidera à marcher ensemble en tant qu'Église.